Bien, il semble qu'il soit 10 heures, au moins à cette horloge-là. Donc nous pouvons commencer. C'est le dernier volet d'une série d'analyses qui avait pour objet fondamentalement des appropriations dans les dernières séances, des appropriations théâtrales de chroniques ou d'histoires, soit dans le monde anglais, Shakespeare, soit dans le monde espagnol, Lope de Vega, Calderón, et qui donc voulait répondre à une question qui a porté l'ensemble de cette série de cours, c'est-à-dire les différentes modalités de présence dépassée dans un présent, que cette présence soit assurée par des mémoires collectives, qu'elle soit assurée par l'écriture du passé sous la forme de l'histoire, ou qu'elle soit assurée par le spectacle des représentations théâtrales. Et comme je l'avais indiqué, pour différentes raisons, j'avais inversé l'ordre des deux dernières séances, telles qu'il avait été annoncé au début du cours. Et aujourd'hui, donc, je m'attacherai à ces questions dans une analyse de Richard II de Shakespeare. C'est évidemment une pièce qui a un autre statut que le Henri VIII ou que les pièces espagnoles qu'on a commentées, puisque c'est une pièce qui est extrêmement souvent représentée et qui a eu un rôle un peu fondateur pour le théâtre de l'après-Seconde Guerre mondiale, puisqu'on peut rappeler que lors du premier festival d'Avignon, en 1947, Jean Villard monte Richard II, et que l'année suivante, en 1948, pour la seconde saison du Piccolo Teatro à Milan de Giorgio Strehler, Richard II est aussi une des pièces qui est à l'affiche. Ce qui pose une question, pourquoi cet attrait pour une pièce à l'intérieur de propositions théâtrales dans l'après-Seconde Guerre mondiale qui visait à construire un théâtre populaire, un théâtre qui pouvait s'adresser à la conscience des spectateurs et qui pouvait avoir un enjeu politique fort dans ce contexte-là. La pièce a été ensuite très souvent jouée. Je voudrais retenir que deux mises en scène, l'une que peut-être certains ont vue ici, en 1981, lorsque Ariane Mnouchkine, avec le Théâtre du Soleil, avait donné une série de Shakespeare, et plus peut-être que d'autres mises en scène, avait essayé de donner à voir ce qui va être un des fils conducteurs de cette conférence, c'est-à-dire ce que la pièce représente de la théorie politique des deux corps du roi. En même temps, elle l'avait fait, c'était l'effet très puissant de cette mise en scène, en utilisant un répertoire de formes, de musique qui appartiennent au théâtre oriental. Le kabuki ou le no japonais et le théâtre aussi insulindien. Et puis une autre mise en scène en 1995 par le Royal National Theatre par Deborah Warner qui est venue aussi à Paris et qui avait cette particularité de donner le rôle de Richard II à une actrice, Fiona Shaw, ce qui était en quelque sorte peut-être souligner quelques traits qu'on pourrait trouver dans la, entre guillemets, psychologie de Richard II, mais qui avait aussi l'idée d'inverser la situation du théâtre élisabétain où tous les rôles féminins étaient joués par des hommes. Et là, on avait donc un rôle masculin central, celui du roi, qui était joué par une femme. Alors, dans ce cours, la présence de Richard II sera centrée sur une des dimensions de la pièce, non pas tellement comme dans le cas de Lope de Vega ou de Henri VIII, l'appropriation d'une écriture historique qui était celle des chroniques, chronique de Holinshed pour Shakespeare, chronique de Rades pour Lope de Vega, mais que l'appropriation théâtrale d'une théorie politique élaborée par les juristes anglais, formulée par les juristes anglais de la fin du XVe à la fin du XVIe siècle. Cette théorie que j'évoquais en rappelant la mise en scène d'Ariane Mnouchkine, c'est la théorie des deux corps du roi. D'abord, avant d'entrer dans cette analyse, peut-être comme toujours, resituer la pièce dans son histoire, avant de saisir l'histoire dans la pièce. La date d'abord, il est possible que cette date de la première représentation soit 1595. On a là une allusion dans la lettre d'un noble anglais, Sir Edward Hobby, qui invite Robert Cecil, qui à l'époque est le fils, a succédé, non, est le fils du secrétaire d'État d'Élisabeth et auquel il succédera l'année suivante. Et dans cette lettre, il y a une allusion pour l'invitation disant que King Richard shall present himself to your view. Le roi Richard se présentera lui-même à votre regard, ce qui est l'allusion peut-être à une pièce et peut-être à la pièce de Shakespeare. En tous les cas, la première édition, le premier quarto, est de 1597. Donc on est là dans une période chronologique 1595-1597 pour le Richard II. Pour Shakespeare, cette pièce, Richard II, ouvre un nouveau programme de pièces historiques qui va se développer avec les deux parties d'Henri IV et puis Henri V. Donc, un retour sur les événements fondateurs, dans ce cas-là, l'usurpation par Bolingbroke de la couronne de Richard II, événement fondateur de ce qui a été raconté, narré, mis en scène par Shakespeare dans les premières pièces historiques qui, elles, sont vouées à des règnes qui ont succédé à celui de Richard II et d'Henri IV et d'Henri V, puisque les premières pièces historiques de Shakespeare, la première tétralogie, sans doute écrite entre 1588 et 1593, porte sur les règnes d'Henri VI, les trois parties d'Henri VI, j'en avais évoqué brièvement une, la seconde avec la révolte de Jack Cade, porte sur le règne d'Édouard IV, même si aucune pièce n'a pour titre le nom de ce roi, et finalement s'achève avec la pièce Richard III, donc mène l'histoire d'Angleterre jusqu'en 1485, le moment où le premier roi Tudor, Henri VII, prend le pouvoir et met en fin à des décennies de guerre civile entre la famille de Lancastre et la famille d'York, réunissant les deux roses, la rose rouge de la famille de Lancastre et la rose blanche de la famille de York. Et avec le Richard II faisant un grand saut en arrière, puisque la pièce se porte sur le règne qui est entre 1367 et 1399, qui est le moment de l'abdication ou la déposition de Richard II, ce qui est un élément clé pour cette appropriation du passé, savoir si le roi renonce volontairement à la couronne ou si le roi est forcé à abandonner son trône, il revenait à un événement considéré comme le point de départ fondateur de ces déchirements, de ces guerres internes à l'Angleterre, qui finalement ne se résolvent qu'avec la fondation de la dynastie et du mythe Tudor, avec le roi Henri VII, c'est-à-dire la défaite de Richard III en 1485. Et donc on a là la manière de commencer ce qui est la seconde tétralogie, donc Richard II, les deux Henri IV et Henri V, et de ce qui va aboutir dans le folio de 1623 à une histoire continue des rois d'Angleterre depuis 1367, c'est-à-dire le moment de la prise du pouvoir par Richard II, jusqu'en 1485, c'est-à-dire la défaite finale de Richard III, la fin de la guerre des Deux Roses et la fondation de la dynastie Tudor. Donc six règnes sont pris en charge par cette histoire écrite en forme dramatique. Ce qui est à dire aussi, c'est qu'au moment où on pense où le Richard II de Shakespeare est composé et représenté, c'est-à-dire peut-être en 1595, en tous les cas avant 1597, la figure de Richard II, le règne de Richard II est tout à fait focalise les attentions. La même année 1595, on a un grand poème épique de Samuel Daniel qui a pour titre « The first four books of the civil wars between the two houses of Lancaster and York », les quatre premiers livres de la guerre civile ou des guerres civiles entre les deux maisons de Lancastre et de York. Et la question est de savoir si ce poème a inspiré Shakespeare ou s'il a été inspiré par Shakespeare. Mais en tous les cas, une focalisation de l'attention sur ce règne brisé par l'abdication et ou la déposition du roi, mais qui est considéré comme le point de départ de des guerres civiles qui opposent les Lancastres au York. On a aussi un manuscrit à la British Library d'une pièce qui narre les événements du règne de Richard II entre 1383, qui est son mariage avec Anne de Bohème, et 1397, qui est l'assassinat d'un des oncles du roi, Thomas de Woodstock, duc de Gloucester, qui était un des sept fils du roi Édouard III. Le thème est intéressant, puisque d'une part, donc, dans les fils du règne d'Édouard III, les sept fils, il y a le prince noir, qui est le père de Richard, mais qui meurt en 1376, et il y a deux personnages qui apparaissent dans la pièce de Shakespeare, c'est-à-dire Jean de Gand, qui est le père de Bolingbroke, l'usurpateur qui devient Henri IV, et qui meurt en 1399 dans la réalité historique et dans la pièce de Shakespeare. Et il y a d'autre part Edmond, le duc d'York. Parmi leurs autres frères, il y avait ce Thomas de Woodstock, le duc de Gloucester, assassiné en 1397 et avec la suspicion que Richard II avait été commandité ou participé à cet assassinat. Le fait intéressant est que cette pièce donc s'arrête avec cet assassinat qui est le point de départ absent de la pièce de Shakespeare, puisque, peut-être vous vous en souvenez, la première scène oppose deux grands d'Angleterre, c'est-à-dire Bolingbroke, qui est le fils de Jean de Gand, et d'autre part un autre noble qui s'appelle Mowbray, qui est le duc de Norfolk, et ce qui est le fondement de leur querelle, qui devrait se terminer par un duel judiciaire, mais finalement interrompu par Richard II, c'est justement des accusations de Bolingbroke contre Mowbray d'avoir participé à l'assassinat de Thomas de Woodstock, et implicitement, et ça deviendra explicite plus loin dans la pièce, d'une accusation de la complicité du roi, ou même de l'initiative du roi, dans cet assassinat de son oncle. C'est donc l'idée d'une pièce qui aurait pu être une première partie d'une seconde partie, puisque la date de 1397, l'assassinat de Thomas de Woodstock, est la fin de la pièce dont on ne possède qu'un manuscrit, et est le début absent, mais immédiatement référé, de la pièce de Shakespeare. Et donc, cette pièce est une pièce curieuse, puisque c'est un de ces cas de manuscrits où il n'y a pas de titre, ce qui fait que lorsque la pièce a été publiée, les éditeurs modernes doivent prendre une responsabilité. Certains l'ont appelée « The First Part of the Reign of Richard II », comme si finalement c'était une première partie de la dont la seconde partie serait la pièce de Shakespeare, et d'autres l'ont simplement nommé Thomas of Woodstock ou tout court Woodstock. Cette pièce est une pièce sans auteur, plusieurs candidats dans la critique pour une attribution, et avec une controverse autour d'une attribution possible à Shakespeare, en particulier par ceux qui la dénomment la première partie de Richard II, comme si Shakespeare avait écrit une pièce en deux parties. Mais cette attribution est extrêmement contestée, et que jamais la pièce n'est entrée dans le répertoire canonique shakespearien, même si certains éditeurs la lui attribuent. Et c'est une pièce sans date. Les variations peuvent être entre 1591-95 et on peut penser à une pièce de 92-93. Donc, même si elle n'est pas, comme c'est probable, shakespearienne, connue par Shakespeare. On pourrait ajouter dans ce contexte de Richard II présent dans les années, la deuxième partie de la décennie de 1590, la pièce de Edmond Marlowe, dont j'avais parlé dans le séminaire la semaine dernière, Édouard II, dans la mesure où il y a un parallèle entre la pièce de Marlowe où un roi est déposé puis assassiné par Mortimer, qui voudrait usurper la couronne, mais c'est une usurpation qui ne réussit pas, puisque la succession héréditaire est maintenue avec le passage de la couronne d'Édouard II à Édouard III. Mais c'est une histoire d'un roi déposé et assassiné, comme l'est l'histoire de Richard II, un roi déposé et assassiné, et dans ce cas-là, avec, on y reviendra bien sûr au cœur de cet exposé, le transfert de la couronne de Richard à Bolingbroke. Pourquoi cet intérêt pour le règne de Richard II, considéré comme le point de départ des guerres civiles qui déchirent l'Angleterre à partir de l'usurpation de Bolingbroke et la succession des rois jusqu'à 1485, sans doute en rapport avec le règne régnant, c'est-à-dire le règne d'Élisabeth Ière, que l'on retrouve, on l'avait trouvé dans la pièce de Henri VIII. Élisabeth Ière, qui est reine depuis 1558 et qui, je vous le rappelle, était la fille de Henri VIII et d'Anne Boleyn, d'abord écartée de la succession, puis ensuite réintégrée dans la succession royale et qui prend le pouvoir après deux autres enfants de Henri VIII, en particulier Marie, qui était la reine catholique, qui avait essayé de rétablir le catholicisme, Édouard avant elle, et qui lui, au contraire, était un prince calviniste. Donc on est dans ce règne, et la question qui est posée par le règne d'Élisabeth, est d'autant plus aiguë que le règne avance, c'est le fait qu'elle n'a pas d'héritier, puisqu'elle n'a jamais marié, l'image de la reine vierge reste tout à fait présente, et donc la question de la succession inquiète pour le moment de son décès. Et cette question a deux enjeux. Le premier enjeu, c'est qui est le légitime héritier de la couronne, surtout en Angleterre, où, comme on le sait, les femmes ne sont pas exclues de la transmission de la couronne, à l'inverse de la France avec la loi salique. Et donc, il y a un débat, une inquiétude, une tension entre, d'un côté, les partisans de Jacques, qui est un descendant d'Henri VII Tudor, qui est roi d'Écosse depuis 1567, et qui est le prétendant le plus normalement inscrit dans la lignée dynastique, et d'autre part, le parti catholique le plus extrême, qui revendique la légitimité par différentes formes de succession de l'infante d'Espagne, ce qui est faire retour, en quelque sorte, à cet idéal d'un retour du catholicisme qui a été incarné très temporairement par le règne de Marie, Tudor, qui a été ensuite effacé complètement par la politique protestante d'Élisabeth Ière, mais qui hante un certain nombre d'esprits. Et en particulier, on ne peut pas séparer la pièce d'un libelle qui avait été publié en 1594 à Anvers par le jésuite Parsons et qui avait pour titre une conférence, un débat à propos de la prochaine succession de la couronne d'Angleterre et qui défendait les droits de l'infante d'Espagne, mais qui les défendait à travers un raisonnement qui remontait jusqu'à la question de Richard II, c'est-à-dire la question en 1399 de la légitimité ou non de l'usurpation du trône par Bolingbroke. Et si elle était légitime, il ne s'agirait donc pas d'une usurpation. Et le deuxième enjeu, ce n'est pas simplement cette opposition sur qui pourrait être le successeur d'Élisabeth, mais c'est une opposition sur le rôle que le Parlement doit ou non jouer dans la question de la succession. Dépend-elle uniquement de la volonté du souverain, donc dans ce cas-là de la souveraine, qui tranche entre les prétendants possibles, ou bien est-ce que le Parlement, c'est-à-dire à la fois les lords et les commons, les représentants du peuple et la haute aristocratie, peuvent d'une manière ou d'une autre intervenir dans cette succession, ce qui était évidemment la thèse de Parsons, qui pensait que par là, qu'il y avait un moyen de réassurer les droits de l'infante d'Espagne aux dépens de la succession voulue, semble-t-il, par Élisabeth, c'est-à-dire Jacques Jacques, roi d'Écosse, qui deviendra évidemment le roi Jacques Ier. On a donc un contexte où une question de la succession se pose et où cette question de la succession est rapportée, soit pour des questions de filiation dynastique, soit pour des questions de dispositif politique, au règne de Richard II, ce qui explique sans doute le poème de Daniel, la pièce anonyme, puisqu'on n'en connaît pas l'auteur qui l'a précédé, et la pièce de Shakespeare représentée peut-être en 1595 et sûrement éditée en 1597. La publication de la pièce est aussi une histoire intéressante dans la mesure où elle pose la question du genre de la pièce et elle pose aussi la question du succès de la pièce. La première édition est un quarto, le premier quarto, qui a été enregistré à la devant la Stationer's Company par le libraire-éditeur Andrew Wise le 29 août 1597 avec un simple titre « The Tragedy of Richard II ». Et la même année, la pièce est publiée par cet Andrew Wise, imprimé par Van Anton Symes, qui sera aussi l'imprimeur d'autres pièces de Shakespeare, en particulier les premières éditions de Hamlet. La page de titre, comme souvent, est très extrêmement intéressante. J'attire toujours l'attention sur le fait que peut-être on n'a pas assez utilisé les pages de titre lorsqu'on veut connaître à la fois les modes d'assignation ou les modes de destination des textes. Sur cette page de titre, on reprend le titre tel qu'il avait été enregistré dans les archives, dans le registre de la compagnie des libraires et imprimeurs, « The Tragedy of King Richard II ». On voit donc qu'il y a une catégorie de genre qui est appliquée à la pièce, c'est une tragédie. La troupe qu'il a représentée est la troupe de Lord Chamberlain, du chambellan de la reine. Shakespeare l'a rallié en 1594. Il est devenu un des acteurs, un des fournisseurs de textes et aussi un des copropriétaires, shareholder. Et puis, la page de titre signale « As it has been publicly acted ». Lorsque dans une page de titre vous avez « publicly acted », cela veut dire que la pièce a été représentée dans un « public amphitheater », c'est-à-dire un de ces grands théâtres ouverts avec les acteurs en face sur une scène de la majorité des spectateurs qui sont debout et qui assistent au spectacle debout, comme dans ce que sera le globe, ce qu'on appelle les groundlings, parce qu'ils sont les pieds sur le ground, sur le sol. Et cette représentation a très certainement eu lieu dans un théâtre qui s'appelle The Theatre et qui se trouve au nord de Londres, puisque la géographie des théâtres à Londres a été, dans la fin des années 90, de s'installer dans les faubourgs du nord de la ville, peut-être en continuité avec la présence d'auberges ou de scènes de spectacles, par exemple des combats d'animaux. Et les deux premiers théâtres, dont The Theatre, qui est le tout premier, s'est installé là depuis 1576. Et c'est le théâtre dans lequel joue la troupe du Lord Chamberlain. Le changement pour cette troupe, qui est celle de Shakespeare, sera d'une part un changement de lieu lorsqu'en 1599 sera construit le Globe, et un changement de nom lorsqu'en 1603, la troupe devient la troupe du roi, King's Men, jusqu'à la mort de Shakespeare et après. Donc on a une première représentation dans ce contexte, qui veut dire qu'on a affaire à une pièce qui est adressée au plus large des publics par une troupe qui joue dans l'un de ces public amphitheaters, ce qui s'opposait à privately, ce qui ne voulait pas dire que le théâtre était plus privé ou plus public, mais ce qui voulait dire qu'on représentait la pièce dans un théâtre fermé où tous les spectateurs étaient assis avec un dispositif, un peu de théâtre, où il y a une scène et puis une salle, et qui était un deuxième mode de représentation, avec évidemment des coûts d'entrée plus élevés, un public plus choisi, et des dispositifs scéniques moins spectaculaires, moins ouverts, et qui peut-être renforçaient l'attention sur l'écoute du texte, plus que sur l'attrait du spectacle. La popularité de la pièce est certaine, puisque dès l'année suivante, en 1598, il y a deux rééditions, le second quarto et le troisième quarto, avec un trait intéressant, c'est que le second quarto porte ce que je n'ai pas mentionné parce qu'il n'était pas présent sur la première édition, c'est-à-dire le nom de l'auteur, By William Shakespeare. Et en 1598, c'est la première fois que le nom de Shakespeare apparaît sur deux quartos. Et l'ordre en est discuté, donc on ne sait pas quel est le premier. D'une part, une comédie, Love's Labour Lost, Peine d'amour perdue, et d'autre part, la seconde édition de Richard II. Ce qui est le début, évidemment, d'une visibilité, d'une présence commerciale de Shakespeare. Si on met le nom, c'est aussi parce que c'est un attrait possible pour la vente de l'édition. L'histoire continue et de manière importante pour notre propos d'aujourd'hui avec le quatrième quarto qui est de 1608, parce que sur la page de titre, vous avez la mention suivante. With new additions of the Parliament scene and the deposing of King Richard, avec de nouvelles additions de la scène du Parlement et de la déposition du roi Richard. En 1608, la pièce a migré, elle est maintenant jouée par les King's Men, les King's Servants, nouveau nom de la troupe, et elle est jouée à The Globe, dans le théâtre dont ils peuvent jouir depuis 1599. Et c'est pour la première fois que sont publiés 164 vers qui étaient absents des trois premiers quartos, 1597-1598. Il s'agit de la première scène de l'acte 4, les vers 154-318. Et effectivement, c'est une scène « at the Parliament » et c'est une scène fameuse de la déposition, du moins c'est ce que dit le titre là, du roi. Et de là, toute une série d'interrogations sur savoir si l'absence de ces 164 vers dans les éditions correspondait aussi à l'absence de cette scène sur la scène, puisque les mécanismes de la censure, si l'on suppose que Shakespeare a écrit d'emblée cette scène, sont différents. La censure des représentations de théâtre est assurée par un personnage qui a pour titre « The Masters of Revels » et qui a le contrôle sur ce qui est joué à la cour, mais progressivement va l'étendre à tout ce qui est joué à Londres et même en Angleterre. Donc il y a une censure de la scène qui appartient à cet officier royal et d'autre part la censure des éditions imprimées des pièces ou d'autres textes, est différente, puisqu'elle appartient à l'archevêque de Canterbury et à l'évêque de Londres, qui doivent donner leur autorisation. Et ensuite, pour un grand nombre de textes, cette censure est interne à la Stationers' Company, à la compagnie des libraires et imprimeurs, qui s'appelle Stationers' Company, parce que stationnaire était le mot du médiéval pour désigner les marchands de livres et de manuscrits. Et donc, la question est ouverte. Est-ce qu'il s'agit d'une censure qui était à la fois pour les représentations et les éditions, ou bien est-ce que ce qui pouvait être représenté pouvait ne pas l'être lorsque l'on passait à l'édition imprimée ? C'est une première question. La deuxième question, c'est les raisons de cette absence, si l'on admet qu'elles sont le résultat d'une censure, et le fait qu'en 1608, la scène peut être imprimée. Les raisons sont, est-ce que la représentation de la déposition d'un roi était au-delà de ce qui pouvait être toléré, ou bien est-ce qu'en 1608, la reine est morte, en 1603, Donc, est-ce que la mort d'Élisabeth et le fait que la question de la succession a été tranchée en faveur de Jacques VI d'Écosse, devenu Jacques Ier d'Angleterre, fait que cette scène devient possible? Ou bien encore, autre hypothèse sur laquelle je reviendrai, est-ce que c'est parce que dans cette scène, at the Parliament, la scène comme elle est dite, la scène du Parlement, donnait une importance au Parlement dans ce problème de la succession qui n'était pas tolérable par rapport à une autre définition de l'absolutisme monarchique. Mais c'est une des grandes questions de l'édition de Richard II, c'est l'apparition en 1608 de ces 164 vers. Et le succès de la pièce continuera puisqu'il y a un cinquième quarto en 1615. Il y en aura même un sixième en 1634, c'est-à-dire après la publication fondamentale du folio de 1623. Vous vous souvenez, Comedies, Histories and Tragedies de Shakespeare, deux éditeurs au sens de editors qui établissent le texte, Hemings and Condell, qui sont d'anciens compagnons de troupe de Shakespeare, soit dans la troupe des Kingsmen. Dans ce folio, le texte est présent, il a un nouveau titre qui n'est pas simplement, qui n'est plus The Tragedy of Richard II, mais qui est dans la liste, le catalogue des pièces et dans le titre de la pièce, The Life and Death of Richard II, la vie et la mort de Richard II. On a une édition dans le folio intéressante, puisque c'est de là que naît la division en actes et en scènes, que les éditions modernes en général reprennent, même lorsqu'elles reprennent un texte du quarto pour qu'on puisse se repérer. On reprend entre crochets les divisions en actes et scènes telles qu'elles ont été introduites en 1623. Il y a des coupures. 51 vers qui sont dans l'édition qui sert de base et qui est l'édition du troisième quarto sont supprimés, comme si finalement les textes du folio résultaient aussi d'une adaptation pour la scène avec des suppressions. Et en revanche, évidemment, la scène du Parlement est présente, mais ce qui est intéressant, et on le verra sur un détail extrêmement important, c'est le fait que le texte de la scène du Parlement en 1623 n'est pas exactement celui de la scène du Parlement dans le quatrième quarto de 1608. Et ce qui laisse supposer qu'il y a eu, d'une part, que ce qui sert de fondement à l'édition de 1623 est bien sûr un quarto, le troisième, mais avec l'utilisation aussi d'un autre texte qui est plus proche des représentations, qui est sans doute ce que l'on appelle en anglais « the prompt book », c'est-à-dire le livre du régisseur, qui est celui qui était utilisé pour organiser la représentation avec les entrées, les sorties des personnages, les indications des musicales, lorsque des trompettes résonnent, un minimum d'indications sur les jeux de scène, ou sur d'indications scéniques, plus que les jeux de scène, d'indications scéniques. Donc, on a sûrement dans l'édition du folio un mélange entre la base, qui est le texte du troisième quarto, et puis l'utilisation d'un de ces livres de régie, d'un de ces prompt books, parce que c'est ce qui expliquerait pourquoi certains vers ont été supprimés, parce qu'ils n'avaient pas été considérés comme pouvant ou devant être joués, pas pour des raisons de censure, mais pour des raisons simplement du mouvement du théâtre. Aussi parce qu'on voit par rapport au quarto un fait intéressant, 28 fois le mot « God » qui est présent dans les quartos est remplacé par le mot « Heaven ». Et au début du XVIIe siècle, il avait été imposé aux troupes de théâtre de ne pas utiliser le mot de Dieu dans les textes, ce qui fait qu'il y a ce remplacement systématique par les cieux, heaven. Et puis, il y a ces petites modifications sur la scène du Parlement, et dont l'une est avec un enjeu important. Et puis, il y a surtout le fait que le folio a fait basculer la catégorie de genre. la tragédie des quartos est devenue une histoire dans le folio. Et donc, du coup, que l'horizon d'attente est différent entre une tragédie qui peut renvoyer, avec la poétique d'Aristote, à une œuvre d'imagination, même si elle est fondée sur des références historiques, alors que la catégorie introduite en 1623 des « histories » et qui commençait une pièce un peu à part avec le règne de le roi Jean, qui se termine avec une autre pièce un peu à part, Henri VIII, mais qui a son cœur avec les huit pièces qui racontent les six règnes entre Richard II et Henri V, créait une attente différente, puisque là, elle était une attente à la fois peut-être en rapport avec le passé tel qu'il fut plus fort, et en même temps, c'est ce qui pouvait peut-être justifier les choix de Jean Villard ou de Giorgio Strehler, c'est-à-dire le fait qu'on y débattait dans ces pièces des enjeux historiques considérables. La légitimité du prince, les règles de la succession, le rapport entre les représentants du peuple et la couronne, ou encore les différentes modalités de la révolte ou de la résistance au pouvoir. Ce qui m'a frappé en reprenant la pièce, c'est que dans la pièce elle-même, il y a d'autres désignations de ce qui peut être le contenu de la pièce. Je veux dire par là que dans une scène sur laquelle on reviendra, qui est la deuxième scène de l'acte 3, le moment où le roi commence à penser que sa situation est fragile, parce que, comme on le verra, qu'il y a une coalition de ses opposants. Et donc il pense que la couronne peut être perdue. Il s'adresse ainsi à ceux qui l'accompagnent. « Pour l'amour de Dieu, asseyons-nous sur la terre et racontons la triste histoire de la mort des rois, certains déposés, d'autres tués à la guerre, d'autres hantés par les spectres de ceux qu'ils avaient déposés, d'autres empoisonnés par leurs femmes, d'autres tués dans le sommeil, tous assassinés. » Et là, le mot shakespearien est tell sad stories. Donc évidemment, en français, on a une difficulté parce que histoire, c'est à la fois raconter des histoires et puis c'est écrire l'histoire. Alors que l'opposition ici est évidemment de faire basculer avec sad stories le phénomène historique du côté de la légende, de la fable, du mythe. Et donc, en quelque sorte, c'est comme si, finalement, la trajectoire de générique de la pièce, qui passe d'une tragédie à une histoire, était référée par Richard II lui-même, enfin, le personnage dans la pièce, à une possibilité de réintroduction dans un répertoire, qui est un répertoire qui est celui des contes, des fables, des mythes. Et une autre, un peu plus loin dans la pièce, c'est la première scène de l'acte 5. On a une autre référence pour ce type de fait historique, mais qui va dans le même sens, puisqu'il s'agit ici des adieux entre le roi Richard et son épouse Isabelle, une princesse française, qui sont séparés après la déposition du roi, où il s'adresse à elle en lui disant « Au cours des longues soirées d'hiver, assieds-toi près du feu avec de vieilles gens et dis-leur de te raconter des histoires d'époques malheureuses des longtemps révolues. Et avant de leur dire bonne nuit, en retour de leur grave récit, raconte-leur ma pitoyable histoire. Et envoie tes auditeurs se coucher en pleurant, car même les tisons insensibles, communiant avec les tristes accents de ta langue déchirante, noieront le feu de leurs larmes de compassion. Certains prenant le deuil en gris cendre, d'autres en noir charbon, pour pleurer la déposition d'un roi légitime. » Et là, vous voyez qu'ici, l'histoire de Richard II, racontée par la reine, en échange des histoires que d'autres lui racontent, avec cette sorte d'image tout à fait forte du récit d'histoire à la veillée, auprès du feu. Et c'est ce qui permet la très belle métaphore à la fin, c'est-à-dire le fait que les tisons eux-mêmes vont être pris de compassion par rapport à cette histoire. Elle est donc référée par Tales, qui est « Les vieilles gens vont te raconter des histoires. Let them tell the tales. » Et en même temps, lorsque Richard fait allusion à sa propre histoire, c'est le même mot qu'il reprend en disant « Tell thou, the lamentable tale of me. » Et on voit que deux fois « histoire » dans la traduction, et évidemment, renvoie à deux fois « tale ». C'est-à-dire, encore là, une difficulté du français pour rendre cette tension, mais qui est exactement dans le même sens. C'est-à-dire qu'on a peu commenté cette idée que dans la pièce elle-même, il y a la désignation de sa matière à travers une catégorie de genre qui est celle de « stories » ou de « tales » et qui n'est ni tragédie ni « history », qui est le retour de l'histoire, de ce qui est advenu des rois légitimes déposés dans un répertoire, qui est d'ailleurs un répertoire de l'oralité. Dans les deux cas, il s'agit de raconter, to tell, et en même temps, qui est un répertoire où finalement une continuité s'instaure entre les contes, les fables, les légendes. Donc voilà, la, me semble-t-il, le point de départ, c'est-à-dire la contextualisation de la pièce. Je fais une parenthèse sur une des difficultés, souvent à la lecture et peut-être difficulté pour l'exposer, c'est le fait que dans la pièce, les personnages ont plusieurs noms. Et j'ai hésité quelquefois déjà. Bolingbroke a pour nom Bolingbroke. C'est le nom qui lui est donné par le lieu de naissance. C'est le château où il est né, le fils de Jean de Gand. Il est très souvent appelé Hereford, qui est le nom d'une de ses propriétés singulières, personnelles. Et en fait, il est aussi Henri de Lancastre, qui est le nom de la filiation, qui est le nom du patrimoine, qui est le nom de la lignée. Et ce qui fait que dans l'Angleterre des XVIe et XVIIe siècles, tous les grands ont deux ou trois noms. Et ces noms peuvent être utilisés dans des contextes différents pour désigner des composantes différentes de la personne, c'est-à-dire soit visant l'individu singulier avec un nom qui est souvent le nom qui lui vient de son lieu de naissance, par exemple le roi Richard et Richard de Bordeaux, puisque fils du prince noir, il est né à Bordeaux, ou Henry Bolingbroke, c'est le nom de son lieu de naissance. Donc il y a ce premier nom, et ensuite il y a, le père de Bolingbroke, c'est Jean de Gand, parce qu'il est né à Gand. Et puis, opposé à cela, il y a un nom qui n'est plus un nom individuel, qui n'est pas un nom singulier, mais qui est le nom d'une lignée appuyée sur ce qui est son fondement territorial le plus essentiel. Et Jean de Gand est Jean de Lancastre. Et Bolingbroke, qui est aussi Hereford, devient Henri de Lancastre avant de devenir Henri IV. Il y a donc cette première raison qui rend complexe, puisque les personnages portent plusieurs noms et que dans la réalité sociale, mais évidemment aussi dans la représentation théâtrale, de choisir l'un ou l'autre nom pour se désigner soi-même ou pour être désigné par les autres, évidemment, porte sens, puisque est-ce qu'on désigne une sorte de lignée qui incorpore les individus ou est-ce qu'on désigne un individu singulier dans sa propre et profonde individualité. Une autre raison qui explique cette mobilité des noms dans les pièces, et en particulier dans les éditions imprimées des pièces, c'est le fait que en particulier dans les indications de qui parle, On peut noter une très grande instabilité. Parfois, elle a été que les éditions modernes en général suppriment, puisque Richard est Richard, ou Bolingbroke est Bolingbroke. Mais en fait, dans les éditions anciennes, quarto ou folio, le même personnage, dans l'indication de speech tags, de l'indication de qui parle, peut avoir une grande variation dans son nom. Pour certains, lié à une sorte d'arbitraire ou d'incompréhension de la part de ceux qui ont établi le texte, peut-être l'auteur d'abord, puis ensuite ceux qui ont établi le manuscrit qui va servir ensuite aux ouvriers typographes, aux compositeurs. Et donc, à travers ce processus, une instabilité, une confusion peut naître. Un exemple de cela serait le fait que dans certaines pièces shakespeariennes, parfois, le nom d'un personnage est le nom d'un acteur. C'est-à-dire le fait qu'ici, l'édition a été imprimée à partir d'un prompt book dans lequel on indiquait le nom de l'acteur qui intervenait et non pas le nom du personnage. Et l'édition imprimée a repris c'est le cas dans Henri VI, par exemple, a repris cette désignation. Mais d'autres fois, on peut être extrêmement sensible à l'effet que produit le fait de choisir dans l'édition imprimée tel ou tel des noms possibles d'un même personnage. Dans la mesure où c'est indiqué le rapport social entre ce personnage ainsi désigné et ceux qui le désignent. Le moment où Bolingbroke devient Henri IV ou Henri de Lancastre, et inversement, le moment où Richard II est ramené à Richard de Bordeaux dans une des derniers vers de la pièce. Alors, je crois que c'est un point extrêmement important, cette question du naming, des noms à l'intérieur de la pièce, parce que c'est une question qui renvoie à tout le processus de transmission des textes, c'est une question qui renvoie à ce qu'un dramaturge veut signifier en utilisant tel ou tel nom, ou en faisant utiliser tel ou tel nom par les personnages. Et ça renvoie à une réalité sociale profonde, c'est-à-dire que dans l'aristocratie anglaise, la haute noblesse anglaise, cette pluralité de noms avait évidemment des significations de transmission patrimoniale, de continuité généalogique, d'indication de la lignée, à l'intérieur desquelles se situe l'individualité de chaque être. Alors j'ai terminé avec cette référence à Richard disant que le tale, le conte que va raconter sa reine, c'est pour faire pleurer quant à la déposition d'un roi légitime, the deposing of a rightful king. Et à partir de cette phrase, on peut entrer dans ce que je voudrais mettre au cœur de la fin et puis de la seconde volet, du second acte de cette exposé, c'est-à-dire l'appropriation par Shakespeare dans Richard II d'une théorie politique qui est devenue explicite et formulée depuis la fin du XVe siècle, du règne d'Henri VII, on pourrait dire, jusqu'à son propre temps, et qui est cette théorie qu'un grand livre, le livre de Ernst Kantorowicz, The King's Two Bodies, Les deux corps du roi, publié en 1957, placé au cœur de sa réflexion juridique et politique sur la monarchie anglaise. Il y a une phrase très frappante dans Kantorowicz, « La tragédie du roi Richard II est la tragédie des deux corps du roi », comme si finalement la pièce de Shakespeare était l'expression la plus spectaculaire, la plus visuelle, la plus dramatique de ce qui est par ailleurs, une théorie juridique que l'on rencontre dans les actes des procédures juridiques au cours du XVIe siècle. Cette théorie a un fondement simple. Le roi a deux corps, d'une part un corps naturel, qui est son corps physique, son corps souffrant, son corps d'être humain, et d'autre part un corps politique, qui est celui du roi comme souverain. Et c'est au cours du XVIe siècle que se rencontrent les formulations les plus rigoureuses de ces deux corps du roi, à l'intérieur d'ailleurs de la jurisprudence, dans des procès où l'une ou l'autre des deux personnes du roi est en cause. Et Kantorowicz avait suivi cette élaboration théorique des deux corps du roi à travers une collection de reports, c'est-à-dire de comptes rendus de procès qui, durant le règne d'Élisabeth, a été constitué par un juriste, Edmund Plowden. Je prends un exemple, mais qui me paraît le plus spectaculaire, pour montrer comment est articulée cette théorie des deux corps du roi, dans le cas d'un procès où il s'agit ici du juge Southcott, mais peu importe. Il y a une traduction évidemment des deux corps du roi de Kantorowicz par chez Gallimard, mais je ne l'ai pas retrouvé, donc je vais retraduire pour montrer l'articulation du raisonnement. Le roi a deux capacités, car il a deux corps, two bodies. L'un est un corps naturel, qui consiste des membres naturels, comme chaque homme a. Et dans cette-là, il est sujet aux passions et à la mort, comme le sont les autres hommes. Le second corps est un corps politique, et les membres de celui-ci sont ses sujets. Lui et ses sujets, ensemble, composent ce corps, corporation. Et il est incorporé avec eux, et eux sont incorporés avec lui. Et il en est la tête, et eux sont les membres. Et il a l'unique gouvernement sur eux, the sole government of them. Et ce corps n'est pas sujet aux passions comme les autres, ni à la mort, car le corps du roi ne meurt jamais. Et sa mort naturelle n'est pas appelée dans notre loi la mort du roi, mais the demise of the king, le transfert, le retrait du roi, ce qui signifie par ce mot, demise, que le corps politique du roi est, ce qui ne signifie pas par ce mot que le corps politique du roi est mort, mais qu'il y a une séparation entre les deux corps et que le corps politique est transféré, est déplacé sur un autre depuis le corps naturel maintenant mort et maintenant retiré de la dignité royale sur un autre corps naturel. Cela donc signifie un déplacement, un détachement du corps politique du roi depuis un corps naturel tout un vers un autre. Vous voyez que la théorie a plusieurs caractéristiques. D'abord, l'idée qu'il y a l'incorporation des deux corps, le corps naturel, le corps politique, dans la même personne, avec l'ouverture d'une discussion sur la supériorité de l'un sur l'autre, c'est-à-dire la supériorité du corps le plus englobant, le plus incorporant, qui est le corps politique, et qui incorpore le corps naturel du roi, ainsi que les corps naturels de ses sujets. Et on a donc une indivisibilité qui n'est mise en question que par la mort, lorsque, en quelque sorte, le corps naturel se retire, et de là ce mot complexe de demise, se retire du corps politique, et qu'un autre corps naturel vient habiter ce corps politique. Et donc, l'indivisibilité des deux corps du roi, au moment de la mort du corps naturel d'un roi, est suspendue, puisqu'il y a un mouvement, en quelque sorte, de substitution. Un corps naturel s'est détaché de la dignité, et la dignité a incorporé un autre corps naturel, c'est-à-dire celui du roi qui succède. Et ce moment, évidemment, c'est le moment ou bien de la transmission dynastique par la mort d'un roi, et immédiatement un autre roi habite le corps politique. C'est pourquoi il y a cette idée que le roi ne meurt jamais. Et d'autre part, L'autre situation, c'est évidemment la situation de Richard II, le moment où la séparation entre un corps naturel et le corps politique peut être le résultat d'une abdication volontaire ou bien d'une déposition. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, souligné par Kantorowicz, c'est la matrice théologique, puisqu'évidemment, les deux corps du roi ne peuvent pas ne pas faire penser à la double nature du Christ. Et donc, du coup, cette double nature du Christ, d'une divinité faite chair et d'une humanité faite Dieu, comme le symbole du christianisme, fait que on a un modèle théologique pour ce corps politique, et de là on parlera assez souvent de corps théologique et politique, et d'autre part, on a les fondements de ce qui est plus propre peut-être encore à l'Angleterre qu'à tout autre pays d'Europe, même si on y retrouve la théorie des deux corps du roi, comme dans le cas de la France, c'est-à-dire ce que Kantorowicz appelle une christologie royale, une sorte d'identification très fréquente dans la pièce entre le roi et le Christ. Et on a aussi dans cette référence théologique l'idée du corps politique identifié au corps mystique. Donc, en parallèle, le corps mystique de l'Église, dont la tête est le Christ, et le corps politique du royaume, dont la tête est le roi. On a donc une identification du théologique au politique ou du politique au théologique qui a de multiples conséquences sur la définition du corps politique, sur l'image christique du roi et sur la réflexion quant à la double nature, puisque la double nature du Christ, aussi bien dans l'Église ancienne qu'au XVIIe siècle, peut être l'objet de controverses sur la priorité de la nature humaine sur la nature spirituelle. La troisième élément, c'est que dans cette théorie où l'on a vu que le corps du roi est incorporé et en même temps incorpore ses sujets pour composer une corporation, une sorte de corps mystique politique, c'est le fait que l'expression de cette double incorporation, c'est le roi dans son parlement, king in parliament. Et du coup, on voit que comme une image, en quelque sorte, de cette double incorporation. On voit le fondement puissant de la réflexion que j'évoquais tout à l'heure sur quel est le rôle du Parlement. Peut-il agir séparément du roi, les communes et les lords, et en plus, est-ce que chaque parti peut agir séparément l'une de l'autre, les communes par rapport aux lords? Et c'est une question qui a été fondamentale, au moins dans les récits des chroniqueurs et dans la pièce de Shakespeare, pour les conditions de légitimité de la déposition ou de l'abdication de Richard II. Le quatrième trait, c'est le fait évidemment que cette formulation prend une articulation explicite avec les juristes du XVIe siècle, lorsqu'elle est mobilisée pour trancher des cas. Mais évidemment, pour Kantorowicz, cette formulation des juristes du XVIe siècle ne fait que renvoyer à une théologie politique médiévale, c'est le sous-titre du livre, « A Study in Medieval Political Theology », c'est-à-dire le fait qu'il y a une théorie des deux corps du roi en pratique, même si elle n'a pas des formulations aussi conceptuellement rigoureuse que celle que j'ai lue à l'instant. Mais dans la théologie politique médiévale, elle est présente et la preuve absolue en est que c'est cette théologie politique que donne à voir, non pas le théâtre, mais les funérailles des rois, puisque dans les funérailles des rois anglais et ensuite des rois français, on a pour un moment la possibilité de donner à voir ces deux corps du roi, le corps naturel du roi mort étant dans le catafalque, invisible, ce qui renverse la situation habituelle où le corps naturel du roi est visible dans toutes les cérémonies, et ce qui est visible dans les funérailles, c'est une représentation, et le mot apparaît comme tel dans l'anglais et le français du XIVe et XVe siècle, une représentation, c'est-à-dire une effigie de bois, de cire, de tissu, de la dignité royale, c'est-à-dire du corps politique, puisque cette effigie qui est rendue visible est porteuse de tous les symboles de la souveraineté, la couronne, le sceptre, l'orbe terrestre. Et donc, ce qui ne peut pas se voir, puisqu'il s'agit d'une réalité conceptuelle, est donné à voir au moment des funérailles, dans une inversion entre un corps naturel devenu invisible et un corps politique donné à voir avec la représentation, c'est-à-dire cette effigie. Et il est tout à fait clair que Shakespeare, par les liens qu'il avait avec certains membres des écoles de droit, les Inns of Court, par une culture juridique qui est très claire dans de très nombreuses pièces, et il y a des livres entiers sur le droit dans Shakespeare, a une connaissance profonde de cette théorie politique en acte à l'époque médiévale, qui est l'époque sur laquelle il écrit, et formulé et théorisé dans l'époque où il écrit, c'est-à-dire le XVIe siècle. Et c'est ce qui explique pourquoi son Richard II est scandé, organisé à partir d'une mise en théâtre de la théorie des deux corps du roi. Et ce qu'on va faire dans la seconde heure, c'est-à-dire de suivre les trois moments dans lesquels Kantorowicz a reconnu la présence puissante de la théorie des deux corps du roi dans Richard II, et a, en quelque sorte, comme trois temps, trois étapes qui vont être les étapes par lesquelles le corps naturel de Richard II va se séparer, se retirer, avec le mot de demise, du corps politique que jusqu'alors il habitait. Et ce retrait qui va laisser un corps politique vide, mais occupé par Bolingbroke, Henri IV, est justement l'objet de cette tension permanente entre ceux qui le désignent comme une abdication volontaire et ceux qui le désignent comme une déposition forcée. Et en même temps, c'est la matière pour une permanente interrogation de Richard II sur lui-même, puisqu'il est ces deux corps dans un seul corps. Et donc, la tension entre ce qu'il quitte, peut-être sans le vouloir, et d'autre part, ce qu'il est ou n'est plus en le quittant, devient l'élément central de la représentation théâtrale. Donc on pourra entrer avec ces trois scènes dans cette mise en théâtre d'une théorie politique, peut-être à 11h08. Mais ce n'est que le premier acte, donc.